France Bleu Bray Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef! Oui, Youssef! L'ouverture du score! Crochet le but!
2-0 pour Brest!
Ici, c'est Brest.
Place au sport sur France Bleu Bray Zizel. Ici, c'est Brest, en compagnie de Thomas Lavaux, en direct de l'Arena Café. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut tout le monde, quel enthousiasme, dites donc, dans cette voix.
Ouais, peut-être on est un peu donc... moins pour les Guingampais, dites-moi. Hein.
Ah, c'est ça le football, hein, de toute façon, victoires, les défaites, ça s'enchaîne.
Ouais, voilà, ça fait cher quand même. Hein.
Ah, ils ont pris cher, ouais, mais on en reparlera un petit peu dans cette émission que l'on réalise donc en direct de l'Arena Café au port du Château à Brest. Et jusqu'à 19h, toute l'actualité du Stade Brestois et toute l'actu sportive d'ailleurs en Basse-Bretagne. On commencera par le Stade Brestois, vainqueur de 2-1 contre Créteil vendredi soir en Ligue 2. On revivra cette rencontre avec Bruno Grougil, capitaine brestois, qui est avec nous. Salut Bruno.
Salut, bonsoir à tous.
Le maintien qui est déjà quasiment atteint pour le Stade Brestois. On en profitera donc pour parler également du quart de finale de Coupe Gambardella samedi à 18h. Les U19 brestois qui accueillent Lille à Francis Leblé. On passera un petit coup de téléphone à Ibrahima Sissoko, l'un des espoirs du Stade Brestois. Et puis ben, vous en avez l'habitude, on vous fera également gagner des places pour le prochain match de Ligue 2 au Stade Francis Leblé. Ce sera face à Dijon, le leader de ce championnat de Ligue 2. Jérôme en parlait, on évoquera également la Ligue 1 et Guingamp fessé hier soir à Lyon, 5-1. Guingamp qui est en danger si le Gazélec d'Ajaccio gagne contre Marseille mercredi en match en retard. Eh bien, les Guingampais replongeraient dans la zone rouge dans la deuxième partie d'émission du tennis. Et on a peut-être assisté à l'éclosion d'un futur grand du circuit mondial hier à Quimper. Le russe Andrei Rublev, 18 ans, a remporté l'Open de Quimper face à Paul-Henri Mathieu. Un certain Roger Federer avait lui aussi gagné son premier tournoi Challenger au même âge en 99 à Brest. Arzel Mévélec, l'un des co-organisateurs de ce tournoi, nous parlera d'un peu plus de ce prometteur Andrei Rublev. Et puis on terminera par la course à pied, de la course à pied avec la présentation du premier semi-marathon, le Cronan Plogonec Quimper. Ce sera ce dimanche et ce sera à vivre sur France Bleu Bray Zizel. Près de 2000 participants attendus. Double objectif, taper les chronos et en faire le rendez-vous d'envergure de la course à pied dans la préfecture du Finistère. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 19h.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
Et avant d'accueillir donc Bruno Grougy, voici le résumé du match de vendredi contre Créteil, tel que vous l'avez vécu sur France Bleu Bray Zizel. Premier corner à la 13e minute pour l'US Créteil Lusitano. S'il est tiré de la gauche, il est tiré devant la cage. Et encore l'intervention de Johan Hartog pour repousser ce ballon vers le tireur. Nouveau centre et but. 13e minute de jeu. Le centre venu de la gauche, j'ai l'impression que c'est Augusto, mais je vous confirmerai ça, qui ouvre le score pour l'US Créteil Lusitanos. Il traverse tout le terrain et il va aller féliciter son entraîneur Laurent Rousset. 1-0 pour l'US Créteil Lusitanos. C'est autant pour moi, c'est Raphaël Diaz qui ouvre le score. Quatrième corner après 26 minutes de jeu pour le Stade Brestois dans cette première période. Tous ont été tirés de la droite et tous ont été tirés par Bruno Grougy. Celui-là, on va le jouer en deux temps puisque Gaëtan Bello est resté monté. Centre de Bello, la tête d'Adnan, c'est sauvé sur la ligne par un défenseur de Créteil. C'est sauvé sur la ligne par Fabien Barillon. La voilà enfin la première occasion à la 26e minute pour le Stade Brestois. Allez, Alexandre Alphonse, un mauvais dégagement de la part des Cristoliens. Alphonse pour Pelé, but de Pelé. Et voilà l'égalisation à la 29e minute de jeu de Brian Pelé. Ah, il l'avait déjà marqué à l'aller à Dominique Duvauchel, il avait ouvert le score Brian Pelé. Eh bien les Cristoliens y ont droit également au match retour avec un ballon encore une fois cafouillé par la défense de l'US Créteil. Encore un ballon perdu à 30 mètres de leur propre cage, les joueurs de Créteil. Quand on voit ce genre d'action, on comprend pourquoi ils sont au fond du seau. Et un ballon bien récupéré par les Brestois. Brian Pelé bien lancé en profondeur. Et à l'entrée de sa surface de réparation, ça frappe au ras du sol qui vient tromper Yann Kerboriou. L'égalisation du Stade Brestois qui mettait le paquet depuis 4 minutes. En récupération cristolienne. Et attention, on arrive à trouver Andrija Tsima tout seul devant. Andrija Tsima qui va remettre pour Raphaël Diaz sur le côté droit. Centre de Diaz. Bangali Dabo qui va devancer la sortie de Johan Hartog. Heureusement, il met ce ballon à côté. Il y a deux Brestois qui se sont fait mal en plus dans l'affaire. Il y a Yaya Sané et il y a Johan Hartog qui se sont visiblement percutés. Et attention parce qu'on est vulnérable. Bangali Dabo qui va passer face à Lorenzi. Et Johan Hartog encore une fois qui sauve son camp. Oh merci Johan, parce que Bangali Dabo, en termes de vitesse pure, là, il a complètement mangé Grégory Lorenzi.
et Bangali Dabo qui prend le ballon dans la surface de réparation. Il est excentré sur la gauche et il essaye de piquer son ballon au-dessus de Johan Hartog. Et Johan Hartog qui joue les sauveurs. Gaëtan Bello prend la balle. Voilà, c'est pas un cadeau ça pour Alexandre Alphonse, il est marqué. Alphonse qui est obligé de remettre à Perez. Bello qui est complètement à l'arrêt. Et Bello qui va perdre le ballon. Niakate qui va rentrer dans la surface de réparation, qui transmet à Bangali Dabo, qui contrôle, frappe de Bangali Dabo à côté. Encore une grosse occasion pour Créteil dans cette seconde période. C'est déjà la troisième. C'est pas cher payé hein, pour cette équipe. Toujours ce score d'un but partout. Allez, côté Brestois, Bruno Grougy qui profite de la glissade de Boris Mahon. Il met ce ballon pour Joseph Moreau dans la surface. La frappe de Joseph Moreau, elle est repoussée par Carboriou. Enfin, une frappe cadrée pour le Stade Brestois. Le corner de Bruno Grougy, corner de la droite. Allez, corner, c'est pas trop mal tiré. Il y a une tête. Oh, il y a un but. Le deuxième but brestois. C'est Alexandre Alphonse à la 81e minute de jeu qui vient donner l'avantage à son équipe. La clé est venue d'un coup de pied arrêté. C'était au moins le 10e corner brestois. Corner tiré par Bruno Grougy. Et c'est Simon Fallette, c'est pas Alexandre Alphonse, c'est Simon Fallette qui vient marquer ce but. C'est le capitaine brestois qui vient sonner la révolte. Et il a très bien coupé au premier poteau ce corner de Bruno Grougy. Simon Fallette, c'est bien Simon Fallette qui inscrit son premier but de la saison. 2-1.
Ici, c'est Brest.
On va brièvement débriefer donc cette rencontre en compagnie de Bruno Grougy. Bruno, la solution, elle est venue d'un coup de pied arrêté. Ça a été un sujet de discussion ces dernières semaines au Stade Brestois, l'efficacité sur les coups de pied arrêtés. Que ce soit efficacité défensive, mais que ce soit également efficacité offensive. Et ce but, ce deuxième but, là, on sent que c'est vraiment le coup de pied basique, corner, déviation, tête au premier poteau, tête décroisée. Le corner tiré, travaillé à l'entraînement.
Oui, travail depuis de longues semaines et c'est vrai que c'est bien. On est content que ça soit là-dessus qu'on ait réussi à remporter le match parce que on savait que offensivement, du moins, on n'était pas très efficace. On n'arrivait pas à marquer et surtout à faire pencher les résultats pour nous. Donc que ça soit arrivé là-dessus, d'autant plus que le match était assez fermé, il n'était pas évident. Que ça soit arrivé sans coup de pied arrêté, c'était vraiment une grosse satisfaction pour nous. Ouais.
Parce qu'une semaine auparavant, à Metz, il y a également un but. Là, c'était un coup franc, c'était Christian Batocchio et c'était la tête de Youssef Annan. Le fait que voilà, Brest soit un petit peu plus, un petit peu plus efficace aujourd'hui sur coup de pied arrêté, est-ce que c'est parce que maintenant les coups de pied arrêtés sont un peu mieux tirés, il y a peut-être un peu plus d'application, ou parce que il manque peut-être aussi une tour de contrôle, un joueur qui pourrait dépasser les 1m95 comme par exemple Christopher Julien, le défenseur central de Dijon, parce qu'on parle beaucoup de l'efficacité dijonnaise sur coup de pied arrêté, mais c'est vrai que Christopher Julien, quand on fait 1m95, quand on a une bonne détente sèche, c'est déjà plus facile.
C'est sûr que ça aide. Non, je pense que c'est un peu des deux. C'est pour ça que ces derniers temps, le coach s'est arrêté à travailler bien les coups de pied, que ce soit offensif mais défensif. Et là, je pense que dans le milieu, il n'y a pas d'hasard. C'est quand on bosse, à un moment donné, on est récompensé. Que ce soit Christian ou moi, on a pas mal tiré ces derniers temps. Et le fait d'avoir marqué à Metz et ce week-end, déjà, ça va nous faire du bien parce qu'on va pouvoir voir que le travail paye. Mais c'est surtout que ça va donner de la confiance à tout le monde. Que ce soit, je pense surtout à Simon parce qu'il a tenté et tenté.
Ah, depuis le temps qu'il a essayé. Il a même tenté une frappe de 35 mètres en ouais. Première mi-temps. Hein.
mais surtout, c'est son geste, il est tout simplement parfait. Il coupe au premier poteau, il décroise comme il faut.
Alors qu'il est marqué.
Il est marqué en plus. Donc c'est pour ça, cette action et ce genre de but va lui faire beaucoup de bien et c'est très bien pour l'équipe.
Comment elle se passe la répartition entre les tireurs? C'est vrai qu'il y a Christian Batocchio qui tire beaucoup de coups de pied arrêtés également. Il était absent, il était, on va dire, mis au repos par prévention vendredi soir. Mais comment ça se passe la répartition entre vous?
Généralement, c'est Christian qui est numéro 1. C'est lui qui se charge de tous les coups de pied arrêtés. C'est lui qui est désigné pour se charger de tous les coups de pied arrêtés. Lorsqu'il se sent pas ou quoi, il préfère passer la main, je suis derrière. Et après, il y a Brian, il y a les autres tireurs. Mais voilà, le coach a décidé que c'était Christian le numéro 1. Et après, ce soit moi ou Brian ou d'autres, on est derrière.
Alors, on parlait du but. Le but, c'est un corner mis directement devant le premier poteau. Mais il y a également une belle occasion, on l'a entendu là dans le résumé, en première période. jouer en deux temps avec avec Gaëtan Bello. Là, c'est une tête de Adnan qui est sauvée par Barillon sur sa ligne. Là, c'est aussi sur le moment qu'on le décide.
Ouais, parce que
les défenseurs par plier et puis on essaye.
Comme tu l'as dit dans le résumé, il y a eu un enchaînement de coups de pied arrêtés et puis sur le moment, je voulais pas retirer pour retirer, donc j'ai voulu un peu surprendre tout le monde. Et j'ai fait appel à Gaëtan qui derrière c'est un super ballon sur Youssef, donc
on connaît sa qualité pour mettre les ballons
de centre, donc c'est pour ça aussi qu'on doute pas du tout. Et du coup c'est bien parce que ça permet aussi de surprendre l'adversaire et puis d'apporter quelque chose de nouveau, donc c'est pour ça que j'ai voulu varier.
Alors vendredi soir face à Créteil, on attendait peut-être une reconduction du 4-4-2 avec milieu à plat que l'on avait vu à Metz, qui avait permis d'aller réussir un résultat à Metz. Finalement, on a eu une reconduction du losange. Et après le match contre Créteil, tu nous disais, toi Bruno, être déjà très à l'aise dans ce système, c'est parce que il apporte le petit côté un petit peu plus offensif que quand tu dois te concentrer à la récupération avant tout.
Ouais, moi je suis très amoureux de ce système en losange parce que déjà, je pense que nos attaquants sont dans des dispositions qui sont plus avantageuses pour eux. Et puis d'avoir un vrai meneur de jeu derrière eux, bah ça les fournit, ça les alimente en ballon. Donc quand on connaît la qualité de Christian là-dessus, bah je pense que c'est un schéma qui va bien à l'équipe. Maintenant, c'est vrai que le schéma ne suffit pas. Après, il faut y mettre les ingrédients, mais quand on arrive à gagner et faire de bonnes prestations dans ce schéma, je pense que le coach a plus de chances de le reconduire.
Et est-ce que ça demande quand même pas malgré tout plus d'efforts défensifs, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'ailier à proprement parler, donc est-ce que défensivement la surface à couvrir et sur un terrain délicat comme Francis Leblay l'était vendredi soir, il y a quelques jours, défensivement on n'est pas obligé de démultiplier les efforts?
Si, il y a encore plus d'efforts que lorsque c'est un vrai 4-4-2 à plat, parce que généralement les latéraux adverses sont assez libres et le losange, il y a des zones qui sont pas occupées, donc il faut couvrir un peu plus de terrain. Maintenant, l'avantage de ce schéma, c'est que quand t'as le ballon, t'as beaucoup de solutions, t'as beaucoup de triangles naturels qui se forment. Et t'as beaucoup de solutions, donc c'est pour ça que...
On voit Youssef qui va beaucoup sur les ailes.
Ouais, Youssef, Steven est assez généreux, Alex Alphonse, n'en parlons pas. C'est pour ça que on a beaucoup d'appels devant nous, les milieux de terrain. Et c'est pour ça que moi j'adore jouer dans ce schéma.
Malgré tout, on a senti quand même vendredi, et c'est pas la première fois qu'on sent ça, que Brest restait quand même à la merci de son adversaire défensivement, que c'était toujours un petit peu au bord de la rupture, un peu comme contre Bourg-en-Bresse en fait ce match. Vous le faites balancer en votre faveur, mais Créteil a eu les occasions.
Ouais, on sait que le schéma ne suffit pas à asseoir une aisance défensive. Il faut aussi, comme je disais tout à l'heure, mettre les ingrédients, mais on a surtout aussi un adversaire, là c'était Créteil, mais la dernière fois Bourg-en-Bresse, où eux aussi nous posent des problèmes, donc c'est pas toujours évident, mais je pense qu'en le travaillant, en le laissant plusieurs matchs sur la continuité, comme c'était le cas en fin de saison 2013-2014, l'équipe va réussir à bien prendre ses marques et puis entre guillemets limiter ces petites occasions qu'on laisse à l'adversaire.
Les fameux automatismes.
Voilà.
Première pause dans cette ici c'est Brest à 18h25. Bien sûr Bruno, tu restes en notre compagnie. Et dans quelques secondes, on va accueillir Ibrahima Sissoko, juste le temps de jouer. Que vous en avez l'habitude, comme dans toutes les émissions, tous les lundis soirs, on vous offre deux places pour aller supporter le Stade Brestois lors du prochain match de Ligue 2. Et ce prochain match de Ligue 2, ça s'annonce quand même un petit peu compliqué, puisque c'est Dijon, le leader de cette Ligue 2, qui se rendra à Francis Leblay. Ce sera le vendredi 18 mars à 20h. La question, la saison dernière, Brest avait gagné 1-0 à Valenciennes. Je vous parle de Valenciennes parce que ce sera le prochain match du Stade Brestois. Et grâce à cette victoire, Brest avait conservé sa place de leader. Victoire 1-0. Et je vous demande qui a marqué le but brestois. C'était il y a un petit peu plus d'un an. Est-ce que c'était Birama Touré? Est-ce que c'était Wilfried Mouambé? Ou est-ce que c'était Ismaël Traoré? Vos réponses dès à présent au 02 98 53 65 65. C'est Laurence qui est au standard.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
Et ce soir-là, Bruno Grougy avait envoyé un coup franc sur la barre d'ailleurs. Il me semble bien.
Oui.
Sur le haut de la barre, malheureusement. On va donc aller au standard de France Bleu Braise Izel et on va accueillir Ibrahima Sissoko. Bonsoir Ibrahima, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonsoir, je vous entends très bien.
Bon, ben parfait. Ben on vous accueille, Ibrahima, parce que l'actualité cette semaine du Stade Brestois, c'est ce match de Valenciennes dont on parlera dans quelques secondes, mais c'est également ce huitième de finale de Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans, samedi 18h à Francis Leblé. On attend quand même plusieurs milliers de supporters. Brest est le dernier club breton en lice. Ibrahima, ça s'annonce être un grand rendez-vous, ça, quand même, à titre personnel, oui. Puis même également pour toute l'équipe des moins de 19 ans.
Oui, oui, ça nous fera un grand rendez-vous, car c'est la Gambardella, c'est beau à jouer, c'est la Coupe de France des jeunes, quoi. Après, c'est à nous de mettre des ingrédients pour gagner ce match, car ça va être un très grand match face à Lille, qui est une grosse équipe.
Alors justement, Ibrahima, c'est la question. Le centre de formation lillois, ils sont cinquième de leur poule en moins de 19 ans nationaux. Vous êtes quatrième. Qu'est-ce que ça vaut, ce centre de formation du LOSC?
Ben, on sait qu'ils sortent pas mal de jeunes là-bas quand même. Il y a pas mal de jeunes qui est sorti du centre de formation. Mais bon, après, on va pas se laisser faire. On va jouer. Bon, on va essayer de mettre les ingrédients pour gagner ce match, quoi.
Bruno, toi, j'imagine, la Coupe de Gambardella, tu as dû la disputer avec le Stade Malherbe de Caen. Qu'est-ce que ça apporte dans la carrière d'un jeune joueur? Déjà, disputer cette Gambardella, aller en huitième de finale, qui est quand même une belle performance, et puis aussi pouvoir jouer, comme ils vont le faire à Francis Leblé, pouvoir jouer dans le stade de l'équipe première.
Ouais, ben cette compétition, elle apporte déjà beaucoup mentalement, parce que c'est des matchs spéciaux. À chaque match, là encore, Ibou va le vivre ce week-end dans la préparation, mais surtout dans le moment du match. C'est pas des matchs qu'on joue toutes les semaines. Donc l'expérience que tu vis lors de ces matchs te fait vachement grandir. Et je le souhaite, mais quand tu vas au bout, moi j'étais en finale. Tu en gardes des moments et des souvenirs, mais même encore aujourd'hui.
C'est le Stade de France. Hier, quoi. Ouais, parce que ça doit être tellement différent quand on est sur la pelouse,
ah ouais,
qu'au troisième étage, ouais, dans un siège.
T'as aussi le plaisir de pouvoir voir les joueurs professionnels. Donc, c'est des moments qui restent gravés dans la mémoire.
Objectif Stade de France, justement, Ibrahima Sissoko, c'est un peu ça l'objectif fixé, ou bon, on est quand même encore un petit peu loin, c'est que les huitièmes de finale?
Oh, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Bah, pourquoi pas? Je pense que notre équipe, on peut y aller, car on a les éléments pour. Après, c'est à nous de faire les choses bien, quoi.
Bah, Ibrahima, quand tu parles des éléments pour, justement, on pense bien sûr à toi. Tu es international avec l'équipe de France. Tu as marqué d'ailleurs récemment avec l'équipe de France. Tu as signé un contrat professionnel l'été dernier pour 3 saisons. Cette Coupe Gambardella, elle peut être aussi une étape vers l'équipe première. Ça peut être ça un peu l'objectif à titre individuel?
Oui, c'est sûr que j'aimerais vraiment être le plus vite possible être en Ligue 2. Après, c'est à moi de travailler pour ça, avec l'expérience que j'ai avec l'équipe de France, l'expérience que j'ai en CFA 2 aussi, pour que ça m'emmène en Ligue 2, quoi. En Ligue 2, voire en Ligue 1.
Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, au moins avoir un petit peu de temps de jeu d'ici la fin de saison. Bruno, toi qui joues un peu le même poste qu'Ibrahima à la récupération, même si tu peux évoluer par ailleurs sur le terrain, c'est quoi les qualités d'Ibrahima?
Déjà, il a une bonne vision du jeu. Après, techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne, parce qu'il est à l'aise avec le ballon. Et il a aussi cette force de percussion avec les qualités athlétiques qu'il a. Quand il vient balle au pied fixé, je suis bien placé pour le dire, quand il vient fixer un milieu de terrain, tu trembles un peu, quoi.
Ouais. Bon, Ibrahima, en tout cas, bonne chance pour cette rencontre, ce huitième de finale de Coupe Gambardella samedi face au LOSC. Ce sera à 18h à Francis Leblé. Bonne chance, Ibrahima, et puis à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
À très bientôt, Ibrahima. 18h30 sur France Bleu, Bray Zizel. Bruno, une dernière question. Après le match contre Créteil également, on a un petit peu parlé de ton avenir personnel, le fait que tu sois en fin de saison. Alors, tu disais tu serais pas contre prolonger, pourquoi pas, l'aventure brestoise. C'est vrai que t'es là depuis tellement longtemps. Je vais pas te reposer la question, mais simplement, est-ce que c'est facile d'avoir la tête uniquement au football quand on est en fin de contrat, quand on a une famille également, et qu'on est dans un club où il va y avoir du changement, mais à tous les étages, durant l'été prochain?
Honnêtement, pour être franc, je vais te dire, c'est pas facile tous les jours, mais on y pense inconsciemment. Il y a forcément des petits moments où tu te dis, l'année prochaine. Mais pour être franc, je me concentre le plus possible, en tout cas, sur le foot en ce moment pour faire déjà des bonnes prestations et puis bien finir cette saison. Les questions, elles arriveront assez vite, hein, parce que
oui, ça va venir vite.
C'est assez proche, donc.
Généralement, les questions de renouvellement, tout ça, ça intervient avril, mai.
Non, pas forcément. Moi ici, on a toujours eu l'habitude que ça soit vraiment après la saison.
Ah oui, après
même,
la saison.
Ouais. Même quand on était en Ligue 1, avant, ça a toujours été après la saison. Donc c'est pour ça que je te dis, par expérience, je sais qu'il faut bien finir la saison sur le terrain. Et une fois que le terrain sera fini, il viendra les questions de l'après.
On va aller au standard de France Bleu Brésil et on va accueillir Stéphanie de Brest. Stéphanie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors Stéphanie, félicitations parce que c'est vous qui remportez les deux places pour aller assister à la rencontre entre le Stade Brestois et Dijon. Ce sera pas ce vendredi là, ce sera le vendredi d'après. Déjà, on va répondre à la question posée. Qui avait marqué à Valenciennes lors de la victoire 1-0 du Stade Brestois la saison dernière?
Ismaël Traoré.
Eh oui, c'est ça. C'est Ismaël Traoré qui avait permis au Stade Brestois de l'emporter 1-0. Vous êtes une fidèle de Francis Leblay, Stéphanie?
Oui, je vais à tous les matchs.
Bah, très bien, alors vous avez dû pousser un ouf de soulagement un petit peu vendredi soir.
Oui, on a eu peur au début, mais après bon.
Et vous, cette fin de saison, vous la voyez comment?
Je sais pas, déjà le maintien sûr, après peut-être monter un petit peu, mais
on verra, il reste encore 9 matchs. Merci beaucoup Stéphanie, puis bonjour au petit bonhomme que l'on entend derrière vous, peut-être un futur joueur du Stade Brestois, sait-on jamais.
D'accord.
À très bientôt, oui. Stéphanie.
Oui, à bientôt, au revoir.
Bruno, pour conclure, le prochain match de championnat, la 30e journée, ce sera Valenciennes. Valenciennes avait gagné à Francis Leblay au match aller.
Ouais, une bonne équipe, très bonne équipe. En plus, depuis le match aller, ça a changé. Il y a un nouveau coach, nouvelle idée. Jamais facile de jouer là-haut dans leur stade là, donc là
c'est un combat.
C'est puis une équipe assez joueuse, assez accrocheuse, parce que pour l'avoir vu la dernière fois contre Lens. C'est une équipe, tu n'as jamais l'impression de l'avoir vraiment battue, elle s'accroche toujours.
Ils avaient gagné à Lens.
En plus. Donc c'est pour ça que, non, c'est une bonne équipe, c'est un match qu'il faut prendre avec le plus grand sérieux et surtout bien le préparer. Ouais.
Les duels vont être importants, tout particulièrement.
Exactement.
Merci beaucoup Bruno.
Merci à vous.
Tu prends ta carte d'abonné, hein. C'est la deuxième fois de la saison que tu viens maintenant.
C'est un plaisir.
On va te faire signer ton contrat. Hein.
Avec plaisir.
À très bientôt Bruno, donc rendez-vous vendredi soir à Valenciennes pour cette rencontre de la 30e journée de Ligue 2. Bravo à Stéphanie qui a gagné les places mises en jeu. Et dans quelques secondes, sur France Bleu Brésil, on va parler de Ligue 1.
À Brest, de la Pinfeld au Stangala, ma radio, c'est France Bleu Brésil. Tous les jours avec vous, les experts.
Les entreprises proposant des travaux d'amélioration du bâtiment destinés à réaliser des économies d'énergie comme l'isolation, les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques procèdent pour certains par démarchage à domicile. Si ça part d'un bon sentiment de vente, il y a parfois anguille sous roche, voire une arnaque. Alors comment s'en prémunir? Quelles sont les règles à connaître? Nous faisons le point ce mardi dans Les Experts avec Aline Lejar, conseillère Info Énergie. Toutes vos questions dès 9h dans Les Experts.
Sur France 3, Sandrine Bonner dirige la pension du Plessis.
Elle veut pas que je garde le bébé.
C'est pas elle qui décide.
Mineures et enceintes, elle refuse d'être exclue de la société. Inédit, elle, les filles du Plessis, l'histoire vraie d'une révolte des années 70, suivie d'un débat sur les mères adolescentes, mardi dès 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit.
France Bleu vous fait partager sa passion des livres. Vous adorez lire et découvrir de nouveaux romans chaque semaine? Vous pouvez faire partie du jury du prix du livre France Bleu Page des libraires et élire le roman français de l'été. France Bleu vous a réservé votre place.
Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur francebleu.fr. Du 5 au 20 mars, c'est le 18e printemps des poètes. Le printemps des poètes, c'est la fête de la poésie dans toute la France. Lecture, rencontres, spectacles, expositions, pour découvrir les poètes du XXe siècle et entendre les poètes d'aujourd'hui, comme à Quimperlé, Brest et Douarnenez. Le 18e printemps des poètes du 5 au 20 mars. Plus d'infos, printempsdespoètes.com. printempsdespoètes.com.
France Bleu Brésil, la radio du foot breton.
Après la Ligue 2, on va parler Ligue 1 et en avant de Guingamp qui est en danger. En avant battu 5-1 hier soir à Lyon en match décalé de la 29e journée. Et Guingamp, que l'on croyait un temps sorti d'affaire avec 5 points d'avance sur la zone rouge, qui n'a pris qu'un seul point lors des 4 derniers matchs. Et sur ces 4 derniers matchs, les Guingampais ont encaissé 15 buts. Résultat, Reims, qui a pourtant perdu samedi à Lille, est passé devant Guingamp parce que la différence de but Guingampais est en train de souffrir. Écoutez la réaction de Jimmy Briand, l'ancien Lyonnais, aujourd'hui attaquant à Guingamp. Il évoque la rencontre, cette défaite 5-1, les problèmes défensifs. Il va vite falloir réagir, prévient l'ancien attaquant de l'équipe de France.
Ce soir, l'important, c'était surtout de venir faire un bon match, pas de venir visiter le stade. Et on a fait une mauvaise première mi-temps qui nous met dedans. Et derrière, courir derrière le score ici, c'est très difficile. Il aurait fallu que nous, on soit au top et que Lyon, dans le même temps, soit un peu moins bien pour espérer un résultat. Mais je vous dis, en première mi-temps, on prend des buts beaucoup trop faciles pour pouvoir espérer quelque chose. Alors après, quand je dis on, ça englobe toute l'équipe, pas que les défenseurs. Et on va devoir travailler là-dessus parce que 15 buts en si peu de matchs, c'est beaucoup trop. On va se dire les choses et voilà, comme à l'habitude du club, on ne va pas tomber dans la panique, mais il va falloir vite réagir. Il va falloir prendre des points très vite et un peu partout parce que ça se resserre et il n'y a plus de temps à perdre.
Comment vous la trouvez, cette équipe de Lyon que vous avez bien connue ?
Ils ont été bons. Maintenant, je pense que nous, on a tellement pas été au niveau que ça devenait tout simplement trop facile pour eux. Et voilà, quand on n'est pas dans le duel, on n'est pas au contact, et ben derrière, c'est plus facile pour eux.
Jimmy Briand, déçu, notamment de la prestation défensive. Hier, Lionel Matisse était de retour. Il a fini de purger ses 3 matchs de suspension, le capitaine et récupérateur brestois. Et on connaît son importance dans l'équilibre du jeu guingampais. On écoute l'analyse de Lionel Matisse et sa vision sur le maintien et sur la fin de saison.
Ils sont plus forts que nous sur le papier. Ils l'ont montré ce soir et nous, on n'a pas été à la hauteur pour pouvoir au moins les embêter. On a les ressources pour égaliser. En deuxième mi-temps, on a une balle pour le 3-2 qui peut peut-être pas changer le match, mais au moins le rendre un peu plus équilibré. On ne prend pas de points, on prend un peu de but pour le goal average. C'est pas trop bon dans la position dans laquelle on est. Voilà, c'est pas une bonne soirée, on n'a pas été bon. On sait qu'on joue le maintien, on sait qui on est, donc on n'a pas besoin de se prendre des claques pour... voilà, si on avait pu l'éviter, on l'aurait évité. On connaît notre objectif et voilà, donc c'est préférable de ne pas se prendre des claques.
Reims vous a doublé ce soir, la différence de but, ça va être accroché jusqu'au bout cette fin de classement?
Oui, ça sera accroché jusqu'au bout, je pense et je l'espère. Oui, voilà, ça sera accroché jusqu'au bout. Je ne sais pas ce qui va moins bien, mais en tout cas, c'est clair, il faut arrêter cette hémorragie.
Et si le Gazélec d'Ajaccio gagne mercredi son match en retard contre l'Olympique de Marseille, eh bien Guingamp serait à nouveau relégable. En avant, qui en plus a un calendrier assez compliqué lors des 9 dernières journées de Ligue 1, avec 6 des 6 premiers, des 7 premiers au classement à affronter d'ici la fin de saison. Samedi, Guingamp qui recevra Saint-Etienne, ce sera à vivre sur France Bleu Brésil dès 20h et puis dès 17h, Lorient accueillera l'Olympique de Marseille. À suivre là encore sur votre radio préférée. On parle tennis tout de suite.
C'est Brest.
Le tennis et Sergueï Roublev, vainqueur du 6e Open de Quimper hier après-midi, le 208e joueur mondial. Il était 208e joueur mondial au moment de la finale qui a battu Paul-Henri Mathieu, 69e à l'ATP et tête de série numéro 1 du tournoi. Le score en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. On est en ligne avec l'un des organisateurs de l'Open, Arsène Mévélec. Bonsoir Arsène.
Bonsoir.
Andrei Roublev, qui était en 2014 numéro 1 mondial junior, ex-vainqueur de Roland-Garros junior, toujours la même année. Il a gagné hier son premier tournoi sur le circuit, son premier tournoi challenger, et on entend beaucoup de bien de lui. Alors Arzel, question un petit peu bête, jusqu'où il peut aller, Andrei Roublev? J'ai appelé Sergueï, mais c'est Andrei. Hein.
Ouais, je sais pas du tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il a fait une finale assez incroyable. Parce que malgré son jeune âge, voilà, il a supporté la pression. C'était pas simple. C'était vraiment certainement la plus belle finale qu'on a eue sur l'Open. Donc voilà, on a assisté à du beau spectacle hier, mais on lui promet un grand avenir. J'en avais déjà parlé avant le début de la compétition. parce que je savais qu'il venait pour les qualifications et je pensais que c'était une des attractions à suivre sur l'événement. Et ben voilà, on s'est pas trop trompé. Il avait déjà fait quand même de grands matchs la saison précédente en battant Fernando Verdasco avec top 10 à Barcelone. Donc voilà, on compare un peu à Federer, 18 ans, il gagne Brest et puis on voit ce qui se passe derrière. Bon, à l'époque, Federer était 57e mondial. Rublev était 208. Là, il est 150e ce matin, en gros. On espère qu'il va faire une grande saison. C'est bon pour l'Open, pour l'image de l'Open, en tout cas.
Et là, il part pour les qualifications à Indian Wells, hein, je crois, la semaine prochaine. Alors, Arzel, quand vous parliez d'attraction, il n'a pas trop abîmé les bâches de fond de cours parce qu'il a quand même un coup droit assez puissant.
Ouais, c'est assez c'est bizarre parce qu'il a il paraît tout fluet et il tape très très fort, hein. Donc c'était un duel de cogneurs hier et ben c'est lui qui a pris le dessus, mais voilà, il est on voit qu'il a des jambes très fines, on se dit que c'est pas possible de taper aussi fort avec un physique pas encore complètement à maturité en tout cas, mais il y a des perspectives de ce côté-là, il y a une marge de progression qui est assez énorme.
Alors on va l'écouter, Andrei Rublev, et il va nous dire pourquoi il est venu à Quimper. Il prévoyait pas forcément de le faire il y a quelques semaines encore. Écoutez le jeune Moscovite que l'on a rencontré hier après sa victoire. Ces dernières semaines, j'étais en Amérique, je jouais très très mal, je perdais tout. Et là-bas, il n'y avait que des tournois ATP que je ne pouvais disputer en raison de mon classement. Je n'aurais pas pu rejouer avant 3 semaines et comme j'étais déjà resté 2 mois et demi sans jouer, c'était trop pour moi. J'ai vu qu'il y avait 2 tournois ici, Cherbourg et Quimper. Je devais jouer, retrouver la forme, prendre des points au classement mondial. J'ai gagné Quimper, donc ça ne pouvait être mieux.
To come back in the shape to get some points and I didn't even know that I'm gonna win and I win so it couldn't be better, you know.
Alors Andrei Rublev, grâce à cette victoire, est passé de la 208e place à la 161e place mondiale. Donc Arzel, vous l'évoquiez il y a quelques petites secondes, Federer, au même âge, il avait gagné son premier tournoi Challenger à Brest, il avait 18 ans également et c'était en 99. Federer était bien mieux classé à l'époque, mais est-ce que ça veut dire que Federer était de toute façon, même dès son entrée sur le circuit, au-dessus du lot à l'époque, ou que Rublev a peut-être eu un décollage un petit peu plus long?
Oui, Federer était très très précoce, hein. Après c'est pas un gage de réussite, hein. Donc voilà, être 160e à 18 ans avec la marge de progression qu'il a, ça montre quand même de belles perspectives. Et puis de nos jours là, les joueurs ils arrivent un petit peu plus tardivement à maturité. Federer, c'était une autre époque, je trouve. Donc voilà, tous les joueurs qui percent un peu là, les Nick Kyrgios, Kokkinakis ou autres Australiens là en forme. Actuellement, ils ont 23, 24 ans et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à maturité. Donc c'est un petit peu changé par rapport à la fin des années 90.
Un mot, Arzel, sur Paul-Henri Mathieu, finaliste, qui s'est incliné hier malgré un set et un break d'avance. On a senti quand même que la répétition des déplacements des tournois, parce qu'il restait sur 2 tournois au Brésil avant d'enchaîner avec Quimper sans coupure, on a senti que physiquement, à la fin, il était un peu émoussé.
Oui, on le sentait sur un fil, hein, de toute façon, tout au long du tournoi, à part son premier tour où il avait été vraiment extraordinaire. Très impressionnant, mais après là, il a réussi à sauver une balle de match au deuxième tour, c'était un peu improbable qu'il soit encore au troisième tour, et puis voilà il était un petit peu chancelant et c'est pas si étonnant que ça qu'il perde en finale. Après il avait un avantage normalement sur par rapport à Rublev, c'est qu'il avait beaucoup d'expérience lui, et Rublev n'avait jamais gagné un tournoi encore en challenger, donc c'est chose faite maintenant.
Mais Rublev, en plus, on le voit assez nerveux par moment dans le premier set. On se dit, il est jeune, c'est les inconvénients de la jeunesse également. Il risque de sortir de son match. Et puis finalement, il a quand même réussi à tenir. On va faire un bilan, Arzel, de cette édition pour conclure. 14 000 spectateurs, je crois, sur les 8 jours de compétition sur les cours de Créage Gouen, sachant que Créage Gouen, c'est pas une arena. Hein, comme on peut rencontrer à Montpellier, à Metz, même à Brest. 14 000, on n'est pas loin du record là, non ?
Oui, de toute façon, on ne peut pas faire beaucoup plus. Hein. Franchement, c'est à part continuer à développer tout ce qu'on fait à côté, les animations pour les scolaires, pour vraiment essayer d'avoir une belle affluence en journée, ça devient un petit peu compliqué. On espère On espère avoir de nouvelles perspectives pour les trois prochaines années parce que la ville a reconduit son partenariat.
En fait, donc, c'est une convention.
On aimerait déménager, mais voilà, il va falloir étudier tout ça. En tout cas, même si on n'a pas l'infrastructure rêvée, c'est un tournoi très très particulier pour les joueurs, pour le grand public. C'est qu'il y a une certaine proximité entre tout le monde et voilà, il y a une atmosphère vraiment très particulière qui règne à Quimper et voilà, c'est ce que nous disent les gens. En tout cas, ils aiment vraiment beaucoup ce tournoi, c'est convivial.
En tout cas, le message a été repassé à François Allemange, qui est le directeur des sports de la ville de Quimper, parce qu'il est juste à côté de moi, François Allemange. On va parler D'accord. avec lui de course à pied dans quelques secondes. Merci beaucoup, oui. Arzel. Bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Ce sera en tout cas dans la Bretagne, à Brest, au mois d'octobre.
Certainement. Merci, ouais.
La date déjà est fixée, l'Open de Brest ?
C'est les mêmes dates en fait qu'en 2015. Après, j'ai pas les dates précises encore, hein, donc. Mais Brest, on n'était pas responsable de l'organisation forcément, on était prestataire, et que les organisateurs actuellement, je pense qu'ils ont renouvelé la date, mais j'ai pas d'informations pour l'instant. Donc voilà, c'est eux qui l'annonceront très prochainement sur France 2, j'espère.
Bah, ce sera dans 8 mois, on a encore le temps. Merci Arzel, exactement. Bonne soirée, à bientôt.
Alors, au revoir, merci.
Allez, tout de suite la course à pied.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
À 18h47 sur notre antenne. Et on va terminer cette émission donc avec la première édition de l'Ocronan Plogonec Quimper, un semi-marathon où on attend 1300 participants et un 10 km avec 600 coureurs inscrits. C'était en tout cas le cas ce week-end. L'objectif, double objectif, déjà réaliser des chronomètres, chercher la performance grâce à un parcours très roulant et puis créer également un élément d'envergure autour du running à Quimper, donc dans la préfecture du Finistère. On va parler de cette nouvelle épreuve en compagnie de Christophe Faligon. Bonsoir Christophe.
C'est Fabrice Jaouen.
C'est Fabrice Jaouen, pardon. Ouais. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Le parrain un peu de cette...
Le parrain avec Dan Arbroise et Karine Pasquier.
Voilà, de cette édition. Et puis également donc François Allemange, directeur des services, du service des sports de la ville de Quimper. Bonsoir François.
Bonsoir.
Alors Fabrice Jaouen, vous qui êtes le parrain, qui êtes un des noms de la course à pied dans le Finistère, vous avez évolué, alors vous me corrigez si j'ai une bêtise, mais au Stade Brestois Athlétisme, dans d'autres clubs également.
Oui, j'ai été 2 ans au Stade Brestois, j'ai après Quimper Athlétisme et puis HBA à Rennes.
Alors c'est vrai que finalement il semblait fou qu'à Quimper, qui est, on le dit encore, mais la préfecture du département du Finistère, il n'y ait pas d'événement d'ampleur autour de la course à pied, vu l'essor également pris par la course à pied ces dernières saisons. On a vu des organisations, des épreuves plus ou moins farfelues, parfois, il faut bien l'avouer aussi, apparaître à droite à gauche. Et puis c'est vrai que sur Quimper, il n'y avait pas tant de choses que ça.
Mais je pense que c'est vrai qu'il manquait une bonne course sur route dans la région quimperoise. Il y en a une vers Morlaix, la Torche pour l'Abbé aussi, et du coup c'était le moment de créer un événement, non pas pour 1, 2, 3 années, mais sur du long terme, pour avoir des chronos et pour avoir la masse aussi, et puis drainer des personnes qui sont intéressées à découvrir la région.
Voilà, on aura l'occasion également de parler un peu de l'avenir, parce que c'est vrai que les organisateurs visiblement voient à moyen terme au moins 3 ans. François Allemange, comment elle s'est créée cette épreuve? Qui est venu vous chercher?
Ouais, alors précisément là, j'interviens pas en tant que directeur des sports en fait de la ville de Quimper, mais plutôt en tant que co-organisateur. Nous étions 3 avec Christophe Faligon, qui s'occupe d'ailleurs du site internet
yannou.net,
voilà. Que vous connaissez, et également Frédéric Thomas, qui est président d'une autre course, courir avec Brin d'Avoine, qui fait un 10 km, d'ailleurs un championnat de Bretagne des 10 km dans 15 jours maintenant. Et nous avons réfléchi tous les trois ensemble en considérant qu'il y avait un vide, justement, vous en avez parlé tout de suite, sur le territoire, et qu'il manquait une grande course à l'image des Orevan, Saint-Paul-Morlaix. Saint-Paul-Morlaix, évidemment. Donc, on souhaitait faire la même chose en Finistère Sud.
Et alors, il a fallu convaincre, bien sûr, les municipalités. Alors, Quimper, vous êtes à la ville, mais à l'Ocronan également, à Plogonec, il a fallu convaincre également les municipalités. Est-ce que vous avez senti chez ces communes-là l'envie de créer un événement qui génère de l'animation.
Tout à fait. Alors, l'enthousiasme est venu immédiatement dès nos premières rencontres. Je rappelle qu'on a créé cette édition, là, cette première édition semi-marathon et 10 km, au mois d'octobre. C'est à ce moment-là que nous avons vu les maires de chaque commune et immédiatement nous avons eu un accord parce que ça apporte de l'animation, ça va permettre également de faire la promotion du territoire.
C'est vrai que le Cronan, la saison haute, bah c'est l'été, il y a beaucoup de monde. Quand on est hors saison, il y a également la possibilité d'animer un territoire. Donc départ de l'eau Cronan dimanche et puis arriver à Quimper. Dans ce sens-là, c'est plus facile que dans le sens inverse. Hein. Ça descend majoritairement. Tout à fait, oui. Et c'était une volonté, Fabrice Jaouen également, de pouvoir concilier événements populaires avec du monde, mais également avoir une course également en tête, de la performance.
Moi, je pense que l'élite emmène la masse, mais la masse emmène l'élite aussi. Du coup, c'est un tout. En course à pied, on a la chance de pouvoir être au départ avec un champion olympique comme une personne qui fait, une heure ou 10 km. Du coup, ça draine et puis ça emmène des rencontres aussi. Et je pense que c'est la philosophie aussi de François, de Christophe et de Frédéric.
Donc quand on parlait de masse, entre guillemets, donc 1300 participants étaient inscrits sur le semi, je crois, ce week-end. 600 coureurs étaient inscrits sur le 10 km. Ça ne devrait pas évoluer énormément. Vous attendez encore du monde, François Lemange, dimanche?
Ah non, nous avons bloqué les inscriptions sur le semi. Il y a déjà...
Parce qu'il y a des questions de sécurité aussi.
Ouais, il y a déjà 2 mois, en fait. Les inscriptions ont été closes au bout d'une semaine et demie.
D'accord.
On a rehaussé le numéro clausus. On pense qu'on aurait pu aller à 2500, peut-être 3000.
Oui, mais après, ça veut dire qu'il faut des bénévoles pour tenir la route et tout ça.
Exactement. Déjà, on a 350 bénévoles sur cette manifestation dimanche. Mais notre objectif en tant qu'organisateur, c'est de faire en sorte que la première édition soit parfaite. C'est un peu prétentieux peut-être, mais en tout cas que ça soit très, très bien organisé et que tout le monde en ressorte satisfait. Les organisateurs, évidemment, les bénévoles, les partenaires et les coureurs, parce que nous voulons accentuer sur les coureurs, vu qu'ils soient bien traités et qu'ils aient l'impression de participer à une belle course qui était bien organisée, pour qu'ils puissent revenir l'année prochaine en tant que coureurs, et surtout aussi qu'ils fassent du bouche à oreille. Parce que là, on n'a pas pu faire du bouche à oreille à l'extérieur de la Bretagne, parce que comme il y a juste un peu les gens qui étaient initiés, qui en ont parlé au mois de décembre, qui se sont les premiers inscrits, on n'a même pas eu besoin de faire de communication, et du coup, c'est un peu les Finistériens qui se sont inscrits en premier, évidemment, les 75% de Finistériens. Et un petit peu le reste, c'est la Bretagne et quelques Français et étrangers. Mais donc l'année prochaine, on ira chercher à l'extérieur.
Parce que voilà, j'en ai un peu parlé également avec Christophe Faligon. Mais c'est vrai que l'objectif, comme je disais tout à l'heure, vous voyez à moyen terme. C'est-à-dire qu'au niveau de la municipalité de Quimper, mais également de Le Cronan, on s'est inscrit sur un nombre minimum d'années.
Non, absolument pas. En fait, nous, on a créé une association pour cette manifestation. Et en tant qu'organisateur, nous, on ne souhaitait pas rajouter une simple course, entre guillemets, par rapport à d'autres courses. Une autre course au calendrier.
Parce qu'il y a un plus.
Ouais, en Finistère, c'est là où il y a le plus de courses en France. Mmh. 120 courses à l'année qui sont inscrites au calendrier. Et nous, on voulait rajouter une grosse course qui puisse se développer. Et effectivement, un plus. Il y a un autre semi-marathon, effectivement, la Torche pour l'Abbé. Mais nous souhaitons aller plus loin. Et par exemple, en organisant des courses enfants, en rajoutant un 5 km, peut-être une randonnée, un trail, on verra en fonction de nos possibilités d'organisation.
C'est tout après, est question de budget. C'est comme tout.
Budget et investissement humain, surtout. Mmh. Même, je dirais même surtout.
Parce que Fabrice Jaouen, quand François nous disait, voilà, il faut pas que ce soit une course en plus, mais il faut que ce soit la course. Qu'est-ce qu'elle va avoir de plus cette course? C'est le patrimoine, c'est le Cronan, c'est le parcours où on va pouvoir chercher une performance. Ça va être quoi?
Moi, je pense que c'est la charnière des trois villes, c'est-à-dire le Cronan, Plogonnec et Quimper. Déjà, c'est pas mal de réunir trois municipalités. Et après, c'est vrai.
Mais pour les participants, oui, qu'est-ce qui fera le petit plus?
Déjà, pour la masse, c'est découvrir le paysage aussi, quoi. Parce que forcément, tout le monde ne veut pas faire un chrono. Du coup, les premiers, c'est sûr, ils profiteront peut-être pas du paysage, mais la masse pourra regarder la beauté du paysage, quoi.
Pourra profiter,
ouais. Oui, voilà. Ouais, ouais.
Parce qu'il y a toujours cet esprit course à pied. Bien sûr, comme vous le disiez, il y a ceux qui vont faire la course en tête. Oui. Et puis, la course à pied, c'est aussi beaucoup le sport loisir, l'entretien physique. Alors un semi-marathon, on n'y va pas comme ça en claquant des doigts, mais un 10 km avec un peu de préparation, c'est vrai que ça peut être à la portée de tout un chacun.
Un 10 km avec de la préparation. Oui, mais enfin c'est accessible à tout le monde, quoi. Du coup, un semi-marathon, c'est vrai que ça, c'est un peu plus long, du coup ça fait 21 km, c'est sûr qu'il faut se préparer un peu plus qu'un 10 km. Mais un 10 km, la personne qui court deux fois par semaine, elle peut s'aligner aussi, quoi.
Vous, Fabrice, vous serez aligné dimanche?
Non, moi je cours plus depuis un an, du coup je découvre avec François et puis l'organisation, l'envers du décor, entre guillemets.
La sympathie de l'administratif.
Oui, et puis le bénévolat, c'est en tant que coureur, on connaît pas ça. Enfin, j'arrivais, je courais. J'essayais de faire mon boulot à fond parce que j'étais détaché par le ministère de la Défense. Mmh. Et puis là, je me rends compte que c'est un boulot monstre, quoi.
C'est un boulot à temps plein.
Oui, pratiquement, ouais. Mmh.
François Allemange, pour conclure, les infos pratiques. Donc le chronant dimanche matin, à partir de quelle heure?
On va commencer par le retrait des dossards, samedi après-midi au Hall Saint-François à Quimper, 15h30, 19h30. Deuxième série de retrait des dossards le dimanche matin à partir de 10h30 à la salle Omnisport. Et puis, ce que nous avons organisé, c'est un transfert des coureurs par navette. Donc, je précise quand même.
Depuis Quimper.
Depuis Quimper, qui vont amener les coureurs jusqu'au site de départ, à Locronan et à Ploguenec. Et l'inscription était réduite si on prenait les inscriptions par la navette. Ça, c'était très original. Et départ du 10 km à Ploguenec, au Croisou, à 13h30. Mmh. Puis, on va basculer sur le 21 avec un premier départ à 14h20 d'une démonstration de handbike, qui est du sport handicapé.
Handbike.
Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Ouais. Et ils vont mettre à peu près 35 minutes pour faire les 21 km. Bon, c'est vrai que ça descend, mais c'est quand même un effort. Mmh. Et troisième
départ du semi, alors?
À 14h30 du bourg de Locronan.
14h30, donc, et puis, allez, les premiers. À Quimper, c'est vers la salle Michel Gloag.
Non, place Saint-Corentin. On utilise la beauté du paysage quand même et des sites d'arrivée, les rues piétonnes de Quimper et la place Saint-Corentin. Donc à peu près vers 15h30, 35.
Une heure et demie environ. Ouais.
Une heure pour les premiers.
Une heure pour les premiers, ouais. Oui, un petit peu plus d'une heure.
Un peu plus, on verra. C'est, oui, 1h10, ce serait déjà bien. Et puis après, les années d'après, on verra.
Vous aurez le temps d'y repenser. Point,
quoi.
Ouais. Vous aurez le temps d'y repenser.
Oui, voilà.
Ça me permet de rajouter d'ailleurs qu'on n'a pas de grille des prix cette année pour les coureurs nationaux et internationaux qui auraient été intéressés parce qu'on ne connaissait pas notre budget avant de commencer l'opération. Et on a déjà été sollicité par des étrangers pour
par des coureurs étrangers.
Ouais. Ouais.
Donc, pour une prochaine participation.
Exactement.
Donc, rendez-vous dimanche et puis dimanche matin également, on vous fera vivre cet événement sur France Bleu Braise Isel. Merci donc beaucoup François Allemange, un des organisateurs de cette épreuve et puis également directeur du service des sports de la mairie de Quimper. Et puis merci également à vous Fabrice Jaouen qui êtes l'un des parrains de cette première édition. À très bientôt messieurs.
Passer un bonjour à Dan Arboise.
Ben oui, parce qu'il est parrain, mais il est
convalescent.
Voilà. Et ben voilà, le bonjour est passé. Merci beaucoup messieurs. Il est presque 19h sur France Bleu, Braise Isel. Petite pause et puis on revient avec les rendez-vous de la semaine.